Salut Abby.
Salut Lirza.
Comment vas-tu?
Bien, merci, et toi?
Ça va bien. Faut dire à l'audience, tu es Rosalba en fait.
Ouais, c'est vrai. Mon nom officiel, c'est Rosalba, mais mon nom de cœur, c'est Abby.
Et tu as décidé maintenant d'annoncer quelque part que tu préfères être appelée Abby, ouais.
De répondre la tradition de comment j'étais baptisée par ma famille choisie.
Donc dorénavant, tu es Abby.
Exactement.
Cool. Bienvenue chez les poissons sans bicyclette.
Merci, bienvenue à vous.
Notre invitée aujourd'hui est Mona. Salut Mona.
Salut Abby. Salut. Lirza.
C'est moi. Mona, tu es une collègue à moi. Ça fait maintenant plus qu'une année qu'on se connaît.
Oui.
Et tu connais Abby depuis le 14 juin 2023, pendant la grève.
Oui.
On s'est croisés et vous avez passé ensuite la nuit ensemble.
On a le même réseau, enfin, on a un réseau amical commun. Et oui. Donc, j'avais déjà entendu parler d'Abby, mais la vraie rencontre, c'est le 14 juin.
C'était super
cette soirée, en effet. D'ailleurs, complément parenthèse, mais je me chauffe vraiment. L'année prochaine, je vais être topless, je me dis.
Mais moi, chaque année, j'ai enlevé en couche.
C'est vrai ?
J'étais en t-shirt la première, en top la deuxième. La troisième, j'étais en maillot de bain parce que j'ai pas osé le soutien-gorge. Et je pense que j'ai passé encore soutien-gorge et topless.
Ok.
Il me reste ces deux étapes.
Du coup, Mona, tu as 38 ans. Tu es maman d'une fille qui s'appelle Ia. Tu te réjouis cette année de faire une rando avec des ânes sur les crêtes du Jura.
Oui.
Je trouve ça super. Moi, j'ai déjà été sur des ânes en Albanie, mais c'est une autre histoire. Et puis, t'aimes beaucoup la couleur bleue.
J'aime beaucoup la couleur bleue depuis que j'ai des cheveux gris.
C'est vrai.
Ah, c'est génial. C'est complètement lié à mes cheveux gris. Il me faut des couleurs pétantes.
Ah, intéressant.
C'est trop cool.
T'es aussi auditrice du podcast depuis quand on se connaît.
Exactement.
Trop bien, merci de nous écouter. Tu es ici au micro aujourd'hui pour parler d'avortement. C'est un sujet très important qu'on a à peine abordé au podcast. On l'a une fois abordé en tête-à-tête, Coraline et moi, mais on n'a pas encore invité des personnes qui ont fait un avortement. Ça s'est passé que, justement, t'as écouté l'épisode en question. C'est l'épisode Cool Girls, vraiment, où Coraline et moi, tête-à-tête, on parle de nos propres biais personnels pour dire, en fait, aux gens qu'on dit tout le temps que le champ de bataille, si on veut avancer, c'est nous-mêmes. Et au lieu de juste faire des théories là-dessus, on s'est dit, ben, on va vraiment parler de nos biais de manière très concrète. Puis on avait parlé de nos biais un peu slut-shaming qu'on peut avoir, des biais grossophobes qu'on peut avoir, et notamment des biais qu'on a pu avoir dans le passé, et que peut-être qu'on a encore, sur l'avortement. Et c'est suite à l'écoute de cet épisode que t'es venue me voir et t'as dit, j'ai une histoire d'avortement. Et je trouve trop cool ton histoire, on va la raconter en long et en large, mais je trouve trop cool ton histoire parce qu'elle est ni dramatique, ni trop joyeuse, ni tragique. C'est vraiment une histoire d'une femme qui est tombée enceinte et qui a fait un choix d'avorter. Et ça parle vraiment d'un choix qui est fait pour des raisons qui t'appartiennent et que t'as décidé d'agir en fonction. Et c'est ça que pour ça que je trouve que c'est important comme histoire, en fait. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de l'entendre, de me dire vraiment qu'on a toujours le choix. Vraiment mon corps, mon choix, quoi. Donc c'est super.
Oui.
Merci d'être là. Je vais juste, moi, re-raconter peut-être mon biais personnel que j'avais raconté à l'épisode Cool Girls, vite fait. Je savais pas que j'avais ce biais, mais j'avais remarqué, une fois en discutant avec ma sœur, en parlant d'une amie en commun qui avait eu un premier enfant où la grossesse n'était pas planifiée, mais elle avait décidé de le garder. Et je sais pas moi, 3 ans après, elle retombe enceinte, c'est pas planifié de nouveau. Et là, elle décide d'avorter. Et moi, j'avais trop jugé ça, en fait. Et j'étais vraiment là, genre, mais c'est incroyable. C'est comme si pour moi, il y avait une bonne manière d'avorter et une mauvaise manière d'avorter. Et j'étais là, si à 25 ans, t'as décidé de garder ton gosse, t'as fait le sacrifice, tu deviens mère, parce que c'est une étape grosse quand même, mère. Quelle est ton excuse, en gros, d'avorter le deuxième? Et c'est ma sœur qui m'avait dit très calmement, elle m'avait dit, mais je sais pas, moi je me dis, c'est son choix, non? Enfin, elle avait dit ça de manière ultra chill. Et du coup, ça m'avait fait réfléchir. Et après, je me suis rappelée, ce que j'avais complètement oublié, c'est comme si j'avais fait un peu un blackout, que ma mère, une fois, m'avait raconté sur un membre de ma famille, mais qui est de sa génération à elle, génération de ma mère, qui avait justement avorté de son deuxième, alors qu'elle était toujours mariée, tout allait bien, machin. Mais elle avait décidé d'avorter. Et moi, je savais pas, c'est un peu un secret de famille, comme ça. Et quand ma mère m'avait dit ça, j'avais fait genre...
Les gros chocs.
Et j'avais clairement un biais là-dessus. C'est comme si, en fait, l'avortement, moi, je suis pour, mais il y a des circonstances.
Il faut une bonne raison.
Voilà, il faut une bonne raison, exactement.
Et tout ça sans des grandes thématiques religieuses ou de croyances derrière, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant, quoi.
C'est clair, évidemment. Donc, depuis, j'ai vraiment fait du chemin, mais c'est la réaction de ma sœur, en fait, qui m'avait fait réfléchir. Et du coup, je me suis dit aussi, Abby, que ce serait trop intéressant de faire cet épisode avec toi, parce que toi, tu as une expérience là-dessus. Mm-hmm. Tu veux dire deux mots peut-être tout de suite?
Oui, bah, je n'ai pas avorté, donc je ne suis pas passée par la pratique de l'avortement. Mais on s'est posé la question et on va vous raconter aujourd'hui un peu cette histoire aussi complémentaire, disons. Moins intense, mais qui a certainement marqué notre vie des couples et aussi notre relation à la contraception et au planning familial en général.
Super, merci. On s'est dit qu'on allait faire ça de manière chronologique, c'est-à-dire on va parler dans une première partie ta vie un peu avant la grossesse, l'identification de la grossesse. Ensuite, on va parler de la procédure en elle-même, l'avortement. Et puis, le épilogue, en gros. Genre, comment vous en parlez aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui, ton rapport à ta fille, tout ça.
Parfait.
Est-ce que tu veux parler un peu du fait que tu dis que tu savais que tu voulais juste un enfant de toute façon ?
Je pense que c'est à partir du moment où j'étais en couple avec le père de ma fille qu'on a commencé à avoir des projections, des discussions sur la famille, que j'ai toujours imaginé qu'il y aurait un ou une enfant par rapport au schéma de vie, parce que lui, il avait déjà deux enfants. Je pense que ça nourrit et ça construit un peu cette image de la famille. Et puis, je pense qu'il y avait un truc plus profondément ancré en moi, mais auquel j'avais jamais réfléchi, qui était que ça me va très bien d'avoir seulement un ou une enfant, parce que j'ai toujours dit à chacune des étapes de la croissance et du développement de IA que c'était génial cette nouvelle étape. Et en fait, je me réjouis tellement de chaque nouvelle étape et j'ai tellement de plaisir à chaque nouvelle étape, je me dis, mais pourquoi je retournerai en arrière ? C'était super avant, mais là, j'ai du plaisir maintenant. Donc ça, je pense que ça s'est construit aussi petit à petit.
Ouais.
Et la question, est-ce qu'on l'a vraiment abordé de face à se dire, est-ce qu'on aimerait un deuxième ? Je pense que oui, on a eu cette discussion et que moi, je disais, mais non, je suis bien comme ça, on est déjà 5, une semaine sur deux, mm-hmm. on remplit déjà une voiture. On n'a pas de voiture, mais dans l'idée comme ça du schéma, c'est bon, c'est déjà plein, quoi. Si on doit partir en vacances, ça devient trop compliqué, enfin, je sais pas. Ouais, tout me semblait très bien comme ça, très équilibré, et il n'y avait pas un désir particulier de créer un autre enfant, d'éduquer un autre enfant. Peut-être que c'est lié aussi à des femmes sentent en elles profondément le désir de devenir mère. Moi, j'ai jamais senti ça. Mm-hmm. J'ai pris la décision de devenir mère, mais mm-hmm. c'était pas quelque chose qui m'a nourrie, qui... Ouais.
Ouais. Et je trouve ça trop beau ce que tu dis, parce qu'il y a un côté où t'es capable d'aimer les choses pendant qu'elles se passent.
Oui.
Et ça, c'est beau. En tout cas, moi, si je veux répéter une expérience, c'est parce que j'ai pas réussi, pas toujours, mais j'ai pas réussi à vraiment saisir le moment quand ça se passait, et tu veux répéter parce que t'as pas eu assez. Et la répétition, c'est pas forcément une solution, de toute façon. Et je trouve ça cool que tu dis, bah, en fait, c'est génial comment ça se passe. Et surtout, pourquoi je me déconcentrerais avec un autre enfant, alors que je peux encore plus aimer ce qui se passe avec IA, quoi.
Ouais. Et puis, il y a ce truc de la liberté retrouvée quand même. Chacune des étapes, c'est un nouveau plaisir et c'est je me retrouve encore plus moi, l'être, mon être individuel. Je crois qu'il y a ça aussi, beaucoup.
Trop bien. Et ton, je sais pas comment tu l'appelles, partenaire, ton mec.
Mon mec, mon conjoint, mon ton partenaire. Ouais, partenaire, c'est joli.
Et ton partenaire, lui, par contre, lui, il était ouvert à avoir plus d'enfants avec toi.
Oui, lui, je pense que 3, 4, 5.
Bon, là, par contre, il faut trouver un bus, hein, parce que la manière, tu l'oublies. Hein. Mais le choix d'avoir un seul enfant de ta part, c'était pas un problème pour lui.
Oui, oui. Non, puis souvent, d'ailleurs, dans nos discussions, si on en parlait, c'était peut-être parce que lui le suggérait. Et puis quand on en discutait ou quand je transmettais mon point de vue, très souvent, on était « Ah ouais, non, mais t'as raison. Ah
ouais.
Ouais, ouais, c'est juste. » C'était plus son enthousiasme, un peu une petite boulimie de câlin de bébé comme ça qui l'emportait. Et...
moins rationnel peut-être.
Ouais.
Merci Rosalba. En fait, je me rends compte que quand mes potes parlent de leur mec, j'ai tellement de trucs misandres que j'ai envie de dire et que je me tais.
Mais là, c'est justement très gentil.
Toi, t'étais très calme.
Très rationnel.
Hein,
au fond, tout va bien.
Ok, du coup, je propose qu'on fasse un tour de salon et qu'on parle de nos méthodes de contraception, puisque c'est quand même un peu au cœur du problème, du sujet, de la problématique.
Complètement.
Du coup, Mona, est-ce que tu veux commencer ?
Oui. Moi, la contraception, je m'y suis intéressée au tout début de ma vie sexuelle, qui arrivait exactement en même temps que la vie sexuelle de beaucoup de mes copines. Mm-hmm. On n'était pas très à l'aise, ou clairement pas à l'aise d'aller en parler avec nos parents, ni d'aller voir, prendre contact directement avec un gynécologue ou une gynécologue. Donc, on a été au planning familial pendant des années ensemble, à prendre rendez-vous ensemble. C'était très joli. Et du coup, j'ai pris la pilule relativement jeune, et je l'ai prise pendant très longtemps, quasiment en permanence, jusqu'à décider d'avoir IA. Et là, j'ai arrêté la pilule. pilule. Alors je me souviens plus très bien si j'en ai pris plusieurs différentes ou plutôt une, j'avais le sentiment une bonne expérience de pilule à ce moment-là. Et puis après IA, j'ai décidé de porter un stérilet cuivre et tout s'est très bien passé jusqu'à ce que au bout de 5-6 ans au moment du renouvellement, on se rende compte qu'il y avait une infection et il a fallu le retirer et là ma tête, nos têtes ont oublié que il y avait d'autres moyens de contraception que le stérilet. Le stérilet, j'adore. Bref, on y reviendra. Et du coup, après l'avortement, j'ai repris la pilule et ça m'a pas convenu. Je me suis rendu compte qu'au niveau libido, c'était vraiment problématique. Ça me coupait beaucoup d'envie, je me sentais pas bien. Et maintenant, j'ai pu reposer un stérilet, mais aux hormones cette fois-ci. Et là, ça se passe très bien.
Le stérilet cuivre, c'est sans hormones ?
Oui, c'est pour ça que j'avais choisi à l'origine. Ça détache l'ovule.
Oui, c'est vrai, il permet pas la liaison entre l'ovule et l'utérus.
Ouais, c'est quelque
chose. Oui, je pense que c'est ça.
Ok, je savais pas que ça existait sans hormones. Et puis toi, Abby ?
Moi, j'ai pris pendant des années la pilule ou les hormones. Disons, sauf plusieurs femmes, j'ai fait la pilule, puis j'ai fait le patch, personne connaît. Mais franchement, moi, j'avais adoré à l'époque.
Moi, le patch, je me rappelle juste, on m'en a parlé en cours de bio, quoi.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils en vendent 10 par année, moi, j'étais une de ces 10. Puis j'ai recommencé à faire beaucoup de natation, et donc ça convenait plus, parce que j'allais souvent à la piscine, j'avais peur que ça se détachait et tout, donc je suis passée à l'anneau vaginal, qui m'a convenu à fond. Jusqu'à quand un jour, j'ai voulu, j'étais en couple fixe, j'ai voulu arrêter les hormones, donc on a convenu qu'on passait au condom. Et là aussi, on a une petite histoire entre deux, on va en parler plus tard. Et du coup, depuis maintenant 2 ans, je suis très contente qu'on ait passé à la vasectomie.
Tu m'étonnes que t'es contente.
Je suis très contente. Alors franchement, on en parlera après.
Super. Puis moi, je me rappelle plus exactement comment ça a commencé, mais c'était la pilule pendant longtemps. Mais je crois que ça a commencé avec le fait que j'avais genre un kyste ou un truc comme ça. Et la gynéco, elle m'avait dit, prends la pilule pendant 3 mois et ça va réguler. Puis finalement, je m'étais mise en couple et j'avais gardé la pilule. Puis en effet, j'avais senti aussi une baisse de libido quand tu l'as dit, j'y ai pensé aussi. Et après, plus tard, j'ai eu une meilleure pilule qui était 5 types de pilules dans le paquet et c'était plus en accord avec ton cycle normal. J'explique ça comme ça. Et après, mon mec, à l'époque, on était un peu à distance pendant une période. Et pendant cette période-là, j'oubliais tout le temps d'apprendre parce que pour peut-être les mecs qui nous écoutent, il y en a quelques-uns.
C'est horrible.
Non, mais la pilule, il faut la prendre tous les jours à la même heure, en fait. Faut pas déconner parce que sinon, sinon tu risques de tomber enceinte et tu t'es bourré d'hormones pour ensuite tomber enceinte. Donc, du coup, je déconnais trop, je la prenais mal. Du coup, je finissais par prendre genre 2 pilules le même jour. Je faisais n'importe quoi et j'ai pété un câble et j'ai arrêté et j'ai plus jamais repris. Et depuis, on est à la capote aussi.
Mais c'est clair qu'il y en a un espèce de des gros livres de contraception possible autour de la table. Et pourtant, on a 1 ou 2 situations intéressantes grâce à cette contraception. Parce qu'en fait, la contraception que vous n'avez pas pris physiquement, en réalité, c'est considéré comme une forme de contraception.
Ouais, vas-y, Mona, du coup, vous avez fait quoi?
Tu crois que c'est vraiment considéré comme une contraception?
Oui, c'est considéré dans la liste des contraceptions. C'est
le retrait?
C'est une manière d'éviter d'avoir des enfants. Puis alors, en fait, on sait que ça... Mona, nos enfants, que ça ne marche pas.
Vas-y, Mona, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais cela dit, je nous trouve tellement naïfs et naïves au regard de ce qui s'est passé parce que c'était une évidence pour nous que la méthode du retrait n'était pas une méthode de contraception. Et quand on entendait des couples qui tombaient enceintes ayant pratiqué cette méthode, mais on pouffait de rire parce qu'on trouvait ça juste...
Genre logique.
Logique, exactement. Et puis on se disait toujours, je me disais toujours, bon, si le couple utilise la méthode du retrait, c'est que et l'un et l'autre sont conscients du risque qui est pris. Et puis, s'il y a une grossesse, ce sera admis et accepté. Je sentais, j'avais cet argumentaire en tête, j'étais vraiment persuadée de ça. Et quand on m'a retiré mon stérilet, parce que je pense simplement c'était plus simple que d'utiliser un préservatif, on n'a pas pris de recul, quoi. C'était vraiment idiot.
Mais ça, c'est très intéressant parce que moi, je me rappelle bien, après mon 2e enfant, ma gynéco m'a vraiment invitée à mettre le stérilet, tout en sachant que moi, Sébastien et mon compagnon, on a toujours voulu 3 enfants. Et donc, ma gynécologue était au courant de ça, donc elle m'a toujours dit, mais... Mais en stérilet, de toute manière, tu ne peux pas faire un enfant tout de suite. Ben non. Et nous, même s'il nous a dit, voilà, les préservatifs, il a un pourcentage de risque qui est quand même plus haut.
C'est vrai?
Ben regarde.
Oui, je vais regarder juste par curiosité. Pas que je ne te crois pas.
Ouais. Mais du coup, nous, on le savait. Et on l'a pris un peu en mode, non mais bon, on ne va pas avoir un accident préservatif. C'est toujours ce truc où tu te dis, ça arrive seulement aux gens qui... Bref, on a un peu jugeant quand même.
Au bolos.
Complètement. Et c'est drôle que ces choses arrivent. Tu te rends compte qu'en fait, tu passes tout de suite de l'autre côté, quoi. De alors, celui qui est jugé.
Le préservatif est la pilule au bas du classement. Voilà. Mais on est à 0,1% de différence. Même. Tout est au-dessus de 99%.
Oui, c'est ça.
Okay. Mais on parle de 99,2%, 0,4%, machin.
Et c'est lequel le plus haut ?
Un instant. Google.
Vasectomie.
Je pense qu'il n'est pas dans la liste. C'est le patriarcat qui l'a enlevé.
Ne pas coucher avec des mecs.
C'est ça.
Contraception la plus sûre selon Google. Aucun moyen contraceptif n'est efficace à 100%. Les stérilets font partie des méthodes les plus efficaces.
Okay. Ok, donc c'est vrai que moi je me rappelle très bien de ce jour au contrôle post-accouchement de ma deuxième fille où la gynéco m'a proposé de les poser en stérilet et moi j'ai refusé en disant mais non, on a été au condom pendant 7 ans, pourquoi changer ?
Vous n'avez pas remarqué sur le moment qu'il y a eu entre guillemets un accident.
Exact, oui.
T'as rien vu.
Non, j'ai rien vu. Par
ni
contre,
lui.
Non, ni lui.
En fait, spoiler, si on n'avait pas compris, Mona, elle est tombée enceinte avec la méthode du retrait.
C'est ça qui va se passer, exactement. Un jour, je me dis, c'est bizarre, j'ai pas mes règles. Et je me rends compte, j'ai l'instinct qui me fait acheter un test de grossesse et effectivement, ça rate pas. Je suis enceinte. Il n'y a pas d'identification du jour de l'accident, ouais. Mais très vite, je me rends compte.
Et là, comment tu te sens ?
Ah. Là, je me sens très perturbée, c'est sûr. Je suis complètement chamboulée parce qu'en fait, la première chose qui me vient à la tête, c'est que je ne veux pas.
Ouais.
Ok, ouais.
C'est très fort. C'est la première réaction, c'est que je ne veux pas être enceinte.
Ouais.
Et quelle conne. Comment j'ai pu être naïve, comment on a pu être naïve.
C'est drôle, mais c'est
trop
drôle.
C'est vrai.
C'est vrai que moi j'entends souvent, et j'entends ce discours des gens qui tombent enceintes quand c'est le deuxième, le troisième, et c'est pas prévu. Il y a ce discours, oh mais ils sont graves, ils sont adultes quand même, mais bon,
mais oui.
C'est humain quoi en fait. Ouais. Adulte ou pas. Peut-être t'as encore plus les boules à 18 ans tombées enceinte que quand t'as 35.
Moi je pense qu'à 35, tu sais qu'est-ce que ça veut dire.
Du coup, t'as plus les boules ou moins?
Mais je sais pas si t'es en deuxième, moi même en voulant la deuxième, quand j'ai eu le test positif, j'ai quand même un peu flippé. Ouais, j'ai flippé un peu plus qu'avec la première.
Ok, ouais.
Je sais pas si c'est ça ou... Mais en tout cas, peut-être c'est juste des souvenirs très différents, tu vois. Les émotions, après quelques années, changent aussi dans les souvenirs. Mais moi, je peux comprendre que, voilà, une fois que t'as déjà un enfant, tu connais un peu à quoi t'attendre. Déjà, la grossesse, c'est pas en période forcément agréable. Mm-hmm. Puis il y a tout le qui suit. Tu l'as bien dit, quand t'as un enfant qui a déjà gagné autant d'étapes, qui te permet d'avoir une certaine liberté, de recommencer tout de nouveau, c'est pas évident.
Ouais.
Donc déjà, si c'était absolument pas votre plan, ben j'ai comprends tout à fait ce sentiment de panique, je crois, non ?
Et puis, la culpabilité, parce que je sais que c'est une bêtise que ça m'arrive.
Ouais, okay.
En fait, c'est que...
Ça n'aurait pas dû arriver.
Ça n'aurait pas dû arriver. Donc, il y a la culpabilité,
ouais.
Et donc, il y a ce sentiment de... Si je décide d'arrêter cette grossesse, c'est vraiment un luxe. Il y a plein de choses qui se mélangent.
Okay.
Même si je suis sûre de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas, c'est mêlé de ce sentiment de culpabilité.
T'as dit culpabilité, t'as l'impression que t'es privilégiée de pouvoir considérer un avortement parce que t'as parlé de luxe. Ou non, c'est pas ça.
Ouais, d'une certaine manière. Enfin, oui, je pense qu'il y a ce truc quand même. Je sais pas si c'est issu de notre éducation qui est quand même un peu.
Culpabilisante.
Ouais, et puis ce truc un peu religieux quand même. De la vie, de...
Que la vie, c'est un cadeau,
que si toutes les bonnes conditions sont réunies pour pouvoir élever un enfant sereinement, il n'y a aucune raison d'interrompre une grossesse. Ouais, il y a plein de choses qui font... Pourquoi est-ce que je sens que c'est un luxe ?
Ou est-ce que c'est dans le sens c'est un luxe en mode t'as pas de vraie raison d'avorter ?
Oui, c'est ça.
Mais c'est ta propre envie.
Oui.
Et ça, c'est un luxe.
Exactement.
Mais c'est clair qu'on est privilégiés, nous trois, je parle juste de nous, et savoir qu'on peut c'est payer une contraception. Quand ça marche pas, réparer à ça avec un système de santé qui va assurer la suite avec des professionnels médicaux, voilà.
Un contexte légal aussi
qui
le permet.
Oui, exactement. Donc en fait, c'est clair, tu sens que t'es privilégié, tu culpabilises de pas avoir vu ça arriver alors que c'était entre guillemets logique.
Exactement.
Vu le processus, et c'est difficile. Là, je voudrais dire... T'es pas seule à faire ce choix de contraception, mais c'est ton corps,
ouais.
C'est toi qui tombes enceinte. Donc en fait, mine de rien, t'as une grande responsabilité sur ce choix.
Oui.
Puis d'ailleurs, c'est une responsabilité qu'on réclame, les femmes,
exactement.
Tout le temps.
Exactement, ouais.
Toi, t'en avais parlé, je crois, quand on a préparé l'épisode, mais si j'essaie de me mettre à ta place, j'ai l'impression que j'aurais trop des notions aussi de destin.
Oui.
Oui.
Genre que je me dirais, non, mais si je tombais enceinte, c'est parce que c'est mektoub, quoi. Genre, je suis faite pour être mère ou cet enfant est fait pour exister, alors que... C'est juste des conceptualisations. Enfin, c'est pas...
Mais le concept de dessin dans ces situations-là, je pense qu'il est très déterminant. En tout cas, dans notre cas, dont je vais parler juste après, les destins, c'était, je dis pas le poids définitif, mais quand même, on a décidé de lui donner un poids. Oui. Alors que, bah, il y avait aussi des certaines conséquences, éléments contextuels qui ont permis de donner au destin les poids qu'on voulait lui donner. Mm-hmm. C'était pas ton cas. Mais nous, par exemple, je suis tombée enceinte suite à un accident de préservatif. Et de même, on a un accident de préservatif pendant que j'étais en période d'ovulation. J'ai décidé de prendre la pilule du lendemain, le jour même.
Une heure après, quoi.
Ouais. 2 heures après, j'étais à la pharmacie. Et en fait, un mois après, j'étais enceinte. Et c'était comme, pour moi, un grand choc auquel Lirza a la... a eu la chance d'assister.
Je suis toujours pas la marraine de l'enfant, mais c'est pas grave.
Mais nous avions une situation très très différente. Nous avions toujours imaginé notre famille à 5. Donc on a toujours imaginé qu'après ma deuxième fille, c'était pas terminé. Mais pour le timing, c'était vraiment très tôt. Je sortais juste du postpartum en fait. Ma fille, elle avait à peine 9 mois. C'était très très tôt.
Oui.
Et c'est vrai qu'en ce moment, la notion du destin accompagnée du fait qu'on savait que de toute manière, on allait avoir un troisième enfant, on allait chercher un troisième enfant, et lié au fait qu'on a eu l'accident, et puis en plus, la pilule du lendemain n'a pas marché.
C'est vraiment mectoupe.
Non, franchement, c'est incroyable.
C'était écrit, quoi.
Ouais. Mais puis, du coup, c'est clair que si on n'avait pas voulu d'enfant, on aurait enlevé cette notion de destin. Mais c'est clair qu'à un moment donné, tu te poses la question, jusqu'à où t'amènes ton luxe? Mm-hmm. Est-ce que j'avorte aujourd'hui pour dans 6 mois chercher un autre enfant? Mm-hmm. Et c'est là que du coup voilà, ouais, il fallait peser aussi cette notion de luxe, des moyens, d'envie d'engager autant d'énergie pour perdre un enfant et puis en remettre 6 mois après pour les chercher. C'était vraiment beaucoup beaucoup de choses.
Oui.
Et entre autres ce destin.
Et c'est vachement intéressant que tu parles de l'énergie pour perdre un enfant, parce qu'effectivement tout ce processus de décision, ça prend énormément d'énergie. Ça coûte, et puis après l'avortement lui-même, c'est aussi de l'énergie, donc c'est vrai que c'est...
C'est pas un truc que tu prends en paracétamol puis c'est fini, quoi. Ok, donc en fait, on est au point de l'histoire où Mona, t'es enceinte.
Exact.
Tu fais ton test, tu sais que t'es enceinte. Rosalba, pardon, Abby, t'es enceinte, tu fais ton test, tu sais que t'es enceinte.
Et les deux, on pleure. Attention, c'est déjà pas mal.
Abby, elle pleure, ça j'étais là.
Elle a pleuré une semaine.
Elle a fait un premier test, il était négatif. Non mais ta grossesse, c'est un cas d'école. Capote qui tombe. Tu prends la pilule le lendemain, 2 heures après. Tu fais un test de grossesse négatif et en fait, t'es quand même enceinte, quoi.
Et en fait, je me réveille dimanche, on a fait le test ensemble un vendredi.
Ensemble, c'est un grand mot, j'étais pas avec toi.
Tout m'a acheté un test vendredi et tout m'a dit « Allez, Abby, fais le test. C'est de toute manière négatif. » Non, mais vendredi, ces tests étaient négatifs et j'avais déjà du retard, donc j'étais assez rassurée. J'étais en mode « Ok, la pilule du lendemain était tellement forte qu'elle m'a juste déréglée. »
Donc,
j'avais pas mes
dérégler,
règles,
hein.
Parce que voilà, c'était oui, plein d'hormones. Et puis, lundi matin, je vais jamais l'oublier. Il y a aussi mes beaux-parents à la maison, en visite. Je me réveille en sueur, comme quand on a la fièvre haute et les pyjamas, ils sont mouillés, avec cette image d'être enceinte. Je le vois. Donc, je vais à la salle des bains, je prends un des tests que j'ai parce que j'ai ou d'autres enfants. Et il est positif. Et en fait, je pleure tellement que j'arrive même pas à dire
non.
Pourquoi je pleure. Et c'est horrible.
Oui.
C'est vraiment hyper dur. Parce que vendredi, j'étais tellement rassurée qu'en fait, voilà, c'était un deuxième choc.
Ah ouais. Ouais, c'est fort.
Et comment on t'annonce ça à ton compagnon?
Je le préviens. J'ai du retard. C'est bizarre. Je vais aller acheter un test. Et du coup, je fais le test à la maison et elle est là. Et quand je sors des toilettes, je dis c'est positif. Moi, le regard fermé, triste. Et lui me regarde avec des petits yeux pleins d'étoiles.
Un petit bébé.
Un bébé. Et là, dans ma tête, c'est le gros chamboulement parce que je... Que va me coûter cette histoire? Là, moi, je suis au clair de ce que je ressens, de ce que je ne veux pas. Et il y a un gros travail qui m'attend.
Toi, t'es sûre, en fait. Mais comment tu t'y mets pour décider?
Assez vite, je lui dis, je te vois enthousiaste, mais moi, je suis pas... Enfin, puis on commence à discuter, et il est assez... Il est rassurant sur le fait qu'il m'écoute, que mon avis compte, qu'on a la possibilité d'interrompre la grossesse, qu'il faut que je sois en accord avec moi-même, etc. quelle que soit la décision, il sera heureux, il sera bien, il sera là. Mais ayant vu cette première réaction, je suis prise entre deux, je sens à nouveau de la culpabilité,
ouais, bah oui.
D'être en train d'imposer quelque chose qui me convient qu'à moi et lui le priver de quelque chose qu'il aimerait vivre. Je sais pas, peut-être ça me prend 2 jours. J'appelle une copine pour qu'on se voit en urgence, discuter. Je la vois elle aussi avec des petits yeux tout enthousiaste.
Oh,
et là, je pleure. Je crois que c'est vraiment là la première fois que je pleure. Et de dire, mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et à force de discuter avec elle, de confirmer que ce que j'ai articulé le matin face à mon compagnon, c'est juste, ça me convient pas. Donc voilà, on en reparle et on confirme qu'on n'ira pas plus loin. Et à ce moment-là, j'appelle le gynécologue.
Donc le choix, ça se fait relativement vite.
Je pense que c'est deux jours, oui. 3 jours, vraiment on est sur noir, mais je pense que c'est 2 jours en vrai.
Oui, c'était vraiment assez rapidement décidé entre vous en tout cas.
Oui,
ouais.
Oui. Mais avec ce poids qui fait sentir vivre ça comme si c'était des mois, quoi.
Ouais,
c'est ça qui est assez troublant. Ouais.
Et du coup, chez le gynécologue, vous y allez à deux?
Eh bien, chez le gynécologue, la réception me dit on fait pas ça, nous, aller au planning familial. Et au planning familial, on y va à deux et on est très, très, très bien reçus. On a des personnes ultra compétentes en face de nous qui sont très sereines et à l'écoute, sans aucun jugement, et qui comprennent et qui nous expliquent comment ça se passe. Je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a 2 rendez-vous en fait. Il y a un premier pour dire ce qu'on souhaite faire et puis qu'ils nous renseignent sur le processus. Et puis après, il y aura un 2e rendez-vous quelques jours plus tard, quand ça se confirme, pour aller prendre les médicaments, pour avoir l'ordonnance.
Parce que du coup, c'est clair que, comme tu dis, tu te renseignes sur la procédure, parce que tu fais où un avortement, en effet. Je sais qu'aux États-Unis, dans les films, il y a l'image des cliniques d'avortement avec des gens qui protestent devant.
Ouais.
Mais c'est pas le cas, je crois, en Suisse, non, il n'y a pas des cliniques d'avortement.
Non, je pense pas.
Donc toi, c'est le planning familial qui te donne l'ordonnance que tu cherches à la pharmacie?
Oui.
Ah, ok.
Et là, il y a quand même, ce qui compte, c'est comme une consultation gynécologique. Où on confirme la grossesse, parce que ça suffit pas d'avoir fait un test.
Mmh. Oui, bah oui.
Mais c'est quand même l'échographie intravaginale, et du coup, je me demande si quand même on n'entend pas les battements du cœur.
En fait, je pense que les battements de cœur, c'est à partir de la 5e ou 7e semaine, donc c'est peut-être trop tôt.
Non, par contre, voilà, il y a cet examen où on te dit oui, il y a un embryon. Là, c'est un moment quand même qui concrétise les choses.
Ouais.
Et c'est suite à ces examens, je pense, que du coup, t'as quelques jours pour réfléchir avant de revenir chercher ton...
Et cet examen, c'est ton gynécolo qui l'effectue?
Non, ils l'ont fait au planning. Ouais.
Ok, intéressant.
C'est cool que le planning familial existe.
C'est génial.
À Lausanne. Enfin, à Lausanne, dans le canton ou en Suisse. Ouais, c'est cool. Et toi, donc, Abby, je pense que tu peux dire que j'avais pas les étoiles dans les yeux quand tu m'as dit que...
Non, alors ça, je peux confirmer, parce que du coup, moi, je pleure et je dis à Lirza que je suis enceinte. Elle m'a dit en gros, merde.
Et j'ai fait de
mon
mieux.
On est deux à pas être contentes.
Non, et j'ai fait de mon mieux pour vraiment rester complètement neutre en mode. Parce que je pense que j'ai déjà assez exprimé comment je vis quand mes potes sont enceintes. Et en fait, du coup, j'étais très. Je donnais pas d'avis, bien sûr. Ça me traversait même pas l'esprit de donner un avis. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu m'as dit de toute façon, on veut un 3e, là, j'étais vraiment genre. Du coup, j'étais vraiment moins investie dans l'histoire parce que j'étais là pour des raisons égoïstes.
De toute manière, c'est perdu.
De toute manière, elle sera enceinte une 3e fois de nouveau, donc ok.
J'étais très blasée. Mais là, c'est clair que ce qui est intéressant, c'est que toi, t'étais impliquée depuis le moment où je t'ai dit « On a eu un accident, j'ai pris la pilule du lendemain. » Et toi, t'étais là « Non, mais... » Tu sais combien de fois de ma vie j'ai pris une pilule dernièrement? J'étais non, mais justement, Lirza, ça doit fonctionner, non?
Oui, et moi aussi, j'étais c'est bon.
Moi, je l'avais pris 11 fois, 17 ans.
Je l'ai pas pris 15 fois, mais je l'ai pris 3 fois.
Mais c'est vrai que c'était... Je me rappelle de m'avoir confiée vers toi en disant, ouais, ça me stresse quand même un peu.
Moi, j'étais très confiante.
Et toi, t'étais confiante, tu m'as dit, mais... Easy, genre, pourquoi tout est fait des soucis?
Ouais.
Et puis, juste pour revenir un peu à ces sons de culpabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, je savais que je voulais pas un enfant en ce moment, je savais que je voulais un 3e, et en même temps, je te retrouve aussi devant des amis. Notamment, à l'époque, j'avais une de mes meilleures amies qui venait de se quitter avec son copain. Et moi, j'avais presque mal au cœur de lui dire, écoute, je suis enceinte, mais je le veux pas, tout en sachant que peut-être, elle aurait voulu un enfant, mais en même temps, elle pouvait pas pour des... question, voilà, de fin de la vie de couple. Donc tu te retrouves aussi dans des situations, peut-être t'en parles avec tes amis, tu te dis « ouais, je suis enceinte, je veux pas ». Peut-être elle cherche depuis des années de tomber enceinte. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très délicat, je
Mais
trouve.
De l'empathie pour moi, qui veut pas que mes potes aient des gosses, il y en a toujours pas. Hein.
Alors là, elle a toujours pas. Non mais c'est clair, mais avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Rien à battre. Tout le monde en avait parlé d'ailleurs à l'époque. Je sais pas ce que je pense de ça. Ce qui me dérange en fait en général, c'est qu'il y a une espèce de, comment dire, un a priori général que avoir des enfants c'est une bonne chose, être en couple avoir des enfants,
oui,
c'est une
complètement.
Bonne chose. Et j'entends souvent des discours, je suis mal à l'aise de parler par exemple que ça se passe trop bien avec mon mec en ce moment parce qu'elle elle est célibataire, ouais. Machin machin. Et en fait c'est parce que il y a un truc ambiant bizarre où c'est réussir sa vie à avoir un mec et des gosses, ouais. Et ça rend des situations impossibles pour toi, ouais. Alors que sauf si t'as vraiment une amie où tu sais que vraiment elle essaie de tomber enceinte et vraiment il y arrive pas, là j'avoue que c'est compliqué de lui parler d'avoir.
Ouais. Alors effectivement, c'est ce qui m'est arrivé moi.
Ce qui t'est arrivé,
mais
c'est
non.
Vrai.
En fait, mon frère était cherchait à avoir des enfants depuis 7 ans à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils étaient en période de FIV. Ils commençaient à aller en, ouais. Espagne. Ça m'est passé par la tête de me dire, mais est-ce que je garde cet enfant, je le donne à mon frère? Il y a vraiment tout ça qui se mélange. Effectivement, c'est encore plus lourd à porter.
Oui, c'est très dur.
Et puis,
ouais, c'est perturbant. Non, mais je comprends trop. Par rapport à ce que tu disais, en fait, c'est juste ce truc où... avoir des enfants, c'est vu comme une réussite, quoi.
Oui, et puis en fait, c'est clair que c'est un peu comme quand tu demandes à quelqu'un comment tout va, tu t'attends toujours la réponse bien et toi.
Ouais.
C'est comme quand tu dis je suis enceinte, la réponse standard quand on s'attend, c'est waouh, c'est cool,
félicitations.
C'est pour quand, voilà.
Ouais.
Alors qu'en fait, voilà, c'est une autre de ces choses qu'on ne questionne pas forcément, mais qu'on pourrait commencer à traiter différemment. Avant de dire « Ah, c'est cool d'entendre la personne, de connaître, ouais. Un peu voilà, sa situation, comment elle voit la chose. »
Du coup, Mona, donc, t'as eu plein de questionnements, d'émotions, de culpabilité, voilà. Qui te traversent. Même « Je donne mon enfant à mon frère. » Mais t'étais assez rapidement sûre que tu le voulais pas.
Oui.
Donc en fait, c'était plutôt une gestion des émotions et du relationnel. Mais toi-même, t'as pas dû faire une liste pour et contre, quoi. Enfin, toi, t'étais assez sûre que...
Ouais, effectivement.
Tu savais que tu voulais pas.
Pendant ces 2 jours, jusqu'à ce que j'arrive à être sûre de moi, entre guillemets, c'était vraiment de résister à toutes les justifications qui feraient que ce serait logique de garder, ouais. de garder la grossesse.
Ouais. De faire ce... Oui. Ce choix vraiment, ouais. De t'écouter.
Est-ce que quelqu'un a essayé de te convaincre de l'envers?
Non, mais j'en ai pas parlé beaucoup. Pendant ces jours-là, jusqu'à ce que on vive vraiment l'avortement, je pense que j'en ai parlé à 3 personnes.
Je pense une manière de te protéger aussi, parce que tu risques justement d'avoir trop d'étoiles dans les yeux, trop de gens qui te disent « mais oh, mais t'en as juste une
mm-hmm. !» Et un petit frère, une petite sœur.
Exact.
T'as déjà une fille, peut-être t'auras un garçon, ce genre de bêtises, quoi.
Ouais.
Tandis que toi, Abby, c'est pas une question de est-ce que je veux un troisième ou pas, mm-hmm. C'est plutôt une question est-ce que je le veux maintenant ou pas. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour prendre la décision? Déjà, est-ce que tu l'as prise solo? Parce que Mona, on a l'impression quand même que tu l'as prise solo, la décision, ça, elle te concernait surtout. Est-ce que toi, Abby, c'était plutôt... Enfin, comment ça s'est passé?
Mais pour nous, ce qui était très difficile, c'est justement cette notion de savoir qu'on voulait 3 enfants. Et que du coup, tu te retrouves comme avoir gagné l'auto. Mais dire, mais en fait, ça m'arrange vraiment pas là. Je peux gagner l'auto dans 6 mois, ça serait mieux. Mais en fait, tu reviens pas en arrière. T'es content de savoir que voilà, ta famille peut s'agrandir parce que voilà, c'est jamais donné de retomber enceinte. Mais en même temps, c'était vraiment pas. Et ça, je continue. Et encore aujourd'hui, j'ai presque la voix qui tremble. C'était pas le bon moment. J'étais pas prête psychologiquement, physiquement.
Ouais.
Je venais de regagner un minimum de cette liberté dont t'as parlé avant parce que la deuxième, elle avait 9 mois. Waouh!
Ouais.
C'est vraiment genre, et ma première, elle avait même pas 3 ans. Donc, j'étais enceinte du 3e enfant, qui est ma première, elle avait même pas 3 ans.
Ouais.
Tu vois, c'était juste absurde. Pour Sébastien, donc, il était aussi, lui, très fatigué de cette période de la naissance de la deuxième. Donc, pour lui aussi, c'était très tôt. Par contre, c'est vrai que moi, j'avais aussi mon corps, mon utérus, toute cette partie physique, mm-hmm. mentale, la reprise du boulot. Mm-hmm. J'étais très contente d'avoir enfin un nouveau projet, mm-hmm. plein de nouveautés. Et du coup, c'était une discussion quand même qui a pris beaucoup plus d'énergie. Pour moi, en tout cas, on s'est rendu compte à la suite que pour mon compagnon, cette période était apparemment moins intense en émotion que pour moi. Et le choix, ça s'est fait après qu'on a été chez la gynéco, on lui a parlé de tout ce qui s'est passé. Moi, je voulais être rassurée du fait que même si j'ai pris la pilule du lendemain, il y a plein de problèmes de santé mm-hmm. pour l'enfant. J'étais très angoissée de ça, donc elle m'a rassurée qu'il n'y a aucun lien, que la pilule sert justement à faire détacher l'embryo, si l'embryo ne détache pas.
Ah, ok, ouais.
Voilà, il n'y a pas de conséquences sur l'embryo. Et puis en fait, elle nous a expliqué voilà, comment ça marche si on veut interrompre la grossesse. Elle était très très claire et très open aussi. Elle nous a accueillis, elle nous a bien dit que, voilà, que même la pilule du lendemain, on ne le sait pas, mais ça ne marche pas à 100%. Oui. Et du coup, c'était 5 jours où, pour finir, on a pris le choix, on s'assoit sur le canapé. Et on a décidé de le garder, justement avec ce poids qu'on a vu donner au destin. Et ouais. Puis, il y a aussi cette espèce de thématique d'être troisième. Moi, je suis la troisième d'une famille. Je sais que moi aussi, je suis arrivée peut-être un peu plus tôt. Mais en tout cas, mes parents m'ont toujours dit, ouais, t'es un peu complétée à l'arrache, quoi. Et Sébastien aussi, c'est le cinquième. Donc, on a un peu cette espèce d'empathie pour les derniers. Et du coup, on a décidé ensemble de le garder. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a décidé qu'on allait continuer la grossesse, on a décidé que cet enfant était voulu au même titre que les autres. Donc, c'est vrai, j'ai eu la peine au début parce que chaque fois que je disais que j'étais enceinte, tout le monde était là. Mais à nouveau ? Je disais, ah ben oui. Du coup, souvent, c'était très, très dur de défendre ce choix. J'ai des fois même pas dit que j'étais enceinte pour éviter ces commentaires. Mais surtout, pour moi et Sébastien, c'était très clair. À partir du moment qu'on le garde, l'histoire qu'on va lui raconter quand il sera grand, c'est la vraie. Il est arrivé plus tôt, mais il a été désiré. Raison pour laquelle on n'a pas avorté. Et ça, pour moi, c'est un message qui est très, très important. Mmh. Si dans 20 ans, il écoute cet épisode. Hey, David ! Mais vraiment, je pense que c'était un moment clé. Par contre, Sébastien, dans tout ça, il a toujours eu une attitude. C'est ton corps, c'est ton choix. Donc, il a toujours été dans cette manière de faire, de son point de vue très compréhensif. Mais en même temps, cette phrase, c'est ton corps, c'est ton choix... C'est pas facile.
Ça te responsabilise trop, non ? Ouais.
Oui, parce que c'est vrai, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est moi qui dois passer la grossesse, l'accouchement, le tout. Mais en même temps, de savoir que c'est mon corps, c'est mon choix, et que la choix n'était pas vraiment 50-50, c'était un peu difficile à gérer.
Mais je pense que ça, c'est trop dur, je trouve, à gérer ça. Parce que, enfin, encore une fois, je peux juste imaginer me mettre à ta place. Si mon mec me dit un truc genre, non mais, il le dirait pas, mais non mais j'ai mon mot à dire aussi, ça m'agacerait trop, oui. Je trouverais ça insupportable. Mais je comprends aussi qu'à l'inverse, on te dit, mais c'est encore ton choix, c'est toi qui choisis.
En fait,
t'es là, mais non mais je veux pas porter toute ta responsabilité, difficile. Quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué.
Parce que c'est vrai que lui, il a été sous choc comme moi depuis le début. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, quand il m'a dit, franchement, tu fais ce que tu veux, j'aurais été autant énervée que s'il m'avait dit, non mais bon, on le garde, je veux
ouais.
dire.
Ouais, c'est clair.
Je pense qu'il n'y avait aucune réponse juste pour moi en ces moments-là.
Ah, bah, je pense, enfin, j'y pense pendant que tu parlais là à l'instant. Je pense qu'il y a une réponse possible de la part du partenaire. Enfin, ça sert vraiment de naviguer cette empathie profonde pour ce que peut vivre une femme ou une personne qui a un utérus, même si tu l'as jamais vécu toi-même, tu peux un minimum comprendre. Enfin, il a vu en plus ton mec, t'as vu une grossesse, t'as vu un accouchement, t'as vu les nausées, t'as vu, je sais pas moi, détacher du boulot comme ça, ça on peut clairement le comprendre. C'est pas du tout pour critiquer ton mec, ouais, mais je pense qu'il y a une possible réponse, c'est-à-dire de dire par exemple, je suis là pour toi, pour qu'on prenne le choix ensemble. Mais il faut qu'on considère aussi ce que ton corps va traverser. Mm-hmm. Enfin, je pense que la réponse entre deux, elle est possible.
Ouais.
Et je le dis ça pour dire, j'ai trouvé ça fataliste de ma part, de dire tu navigues entre deux options qui sont les deux merdiques. Mais en fait, je pense qu'il y a une option entre deux qu'on peut...
J'ai l'impression que c'est la forme dans ce que tu proposes, mais le fond restera le même. Il y a une décision qui est à prendre sur quelque chose que tu n'as pas choisi. Donc, ce sera toujours lourd. Tu sentiras toujours que c'est ton corps, c'est toi. Ouais, moi, je partage ton avis qu'il y a des très mauvaises manières d'accompagner, mais il n'y en a pas une idéale.
Ok, ouais.
Moi, je pense que c'est que j'en retiens, en tout cas, de ces 5 jours, qui, effectivement, dans ma tête, maintenant, sont restés quand même comme une espèce de traumatisme, et je me les souviens vraiment bien, et apparemment, mon compagnon les a vécus d'une autre manière. Mais moi, ce que j'y retiens, c'est vraiment ces discussions sur les canapés où, en fait, on parlait pendant des heures et pour une fois, on ne disputait pas. Alors qu'on est les deux très guerriers, hein, alors on parle beaucoup, mais on s'attaque aussi beaucoup. On est souvent violent dans notre manière de communiquer au sein du couple. Mm-hmm. Alors que là, j'ai plutôt des souvenirs où, en fait, on arrivait à parler. C'est bizarre, c'est quand même des beaux souvenirs.
Ouais.
Ces choix difficiles à faire, que de manière ou d'une autre, ça nous a quand même réunis. Et je pense que... C'est clairement un choix qu'on a assumé pleinement ce soir-là. Mais c'est clair, c'était hyper lourd. Et c'est démontré du fait que moi, encore aujourd'hui, j'en parle. J'ai un peu l'estomac qui se ferme. Et lui, il en parle avec une autre vision. Et ça fait partie de comment chacun vit des moments. Et voilà. Parce que j'imagine que bon, tu vas nous raconter maintenant comment ça s'est passé une fois que t'as effectivement passé à l'acte. Comment tu t'es senti après.
Ouais, je pourrais même, avant de passer à l'acte, moi, ce que j'ai trouvé très difficile physiquement... c'est une fois que la décision elle est prise, elle est claire, on a pris rendez-vous au planning, c'est de sentir tous les symptômes de la grossesse. En sachant que c'est décidé, tu ne la vivras pas.
Ah ouais, ok.
Donc la fatigue, la poitrine qui gonfle, qui fait mal, voilà, des petits détails comme ça. Et ça, c'est une période qui est dure. Effectivement, là, tu la vis seule parce que ça te touche et ça ne touche que toi. C'était assez intense. Et puis après, effectivement, ouais, après, il y a le moment de l'avortement. La personne du planning familial me donne une ordonnance et puis il y a deux médicaments. J'ai relu, c'est parce que j'avais complètement oublié. Il y a un premier médicament qui est à prendre pour vraiment stopper la grossesse. Et 36 à 48 heures après, il faut prendre un deuxième médicament pour expulser l'embryon et tout ce qui va avec. Et donc, au planning, ils me préviennent que ça peut être un moment difficile à partir de l'absorption du deuxième médicament.
Okay.
Parce qu'il va falloir expulser et puis que ça ressemble un petit peu à des contractions. Et que c'est bien d'être accompagné. Donc, on s'organise et mon compagnon est là le jour où je dois prendre le deuxième médicament.
Est-ce que tu as pu avoir un arrêt maladie ?
Oui, on me fait un arrêt maladie. D'ailleurs, on me prévient, on vous met un arrêt maladie de 3 jours. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de plus.
Ok.
Et donc, le médicament, il t'est donné en pharmacie tranquillement, oui, avec ton ordonnance.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai fait une petite vérification avant. Donc en Suisse, on a le droit d'avorter jusqu'à 12 semaines.
Mm-hmm.
Oui.
Et moi, dans mon esprit, il y avait le médicamenteux qui se faisait jusqu'à peut-être 8 semaines. Et puis au-delà, c'était chirurgical. Et en fait, pas du tout. Jusqu'aux 12 semaines, ça peut être médicamenteux.
Oui.
Ça peut être chirurgical pour d'autres raisons que je ne maîtrise pas.
En fait, à partir de la 12e semaine, de mes souvenirs, hein, tu peux avorter pour des raisons médicales, mm-hmm, des maladies graves, génétiques du bébé, qui sont justement diagnostiqué la 12e semaine quand il y a la première grande échographie. Et donc là, effectivement, tu as le droit de pouvoir revenir à l'avortement, qui du coup, c'est un avortement chirurgical, qui du coup doit être justifié par des malformations de fœtus, des complications de grossesse avérées, etc.
Ouais. Et c'est quoi la limite la plus longue
Je pense qu'il n'y a pas de limite plus longue.
Ah, oh, waouh.
Il y a une limite conseillée. Ben, nous, on a eu un examen, justement, l'examen des 12 semaines de David, et ne s'est pas très bien passé. Donc voilà, un rebolote, panique et tout. Puis en fait, heureusement, les problèmes, ça s'est réabsorbé en faisant d'autres contrôles. Et puis,
faut
c'est une autre histoire. Ouais. Voilà. Mais on s'était évidemment aussi informé par rapport à ça. Mais il n'y a pas forcément de limite, parce que tu peux avoir des problèmes pendant la grossesse qui amènent un problème grave au fœtus, même très tard. Puis c'est des cas par cas.
Puis autre chose intéressante que j'ai vue, c'est que du coup, où est-ce que c'est inscrit ces 12 semaines ?
Oui.
C'est dans le code pénal. Parce qu'on parle après de meurtre, en fait.
Non.
Ça, c'est très intéressant.
Mais non. Pénal.
Donc en fait, la loi suisse détermine que l'embryo devient un enfant.
C'est ça.
Un être vivant.
Dès 3 mois.
Donc en fait, quand tu reçois la pilule, après ça se passe comment ? Tu t'attendais ? Est-ce que tu connaissais déjà quelqu'un, par exemple, qui avait avorté ? T'avais déjà eu des récits ?
J'avais pas eu de récits dans mon entourage proche. J'ai pas pensé à aller chercher des témoignages, à m'informer particulièrement. Mais du coup, ça a été une surprise au niveau de la douleur. Ça m'a vraiment projetée à des contractions d'accouchement. Ouais, une perte de tension, quelque chose de très impressionnant en fait, et j'ai trouvé que c'était très impressionnant de le vivre à la maison. Heureusement, j'étais accompagnée, mais c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu la documentation sur l'avortement là, avant le podcast, je trouvais que c'était pas assez accentué le fait que c'est ultra important de pas être seule. Il conseille de se faire accompagner, mais c'est pas marqué comme une donnée de base.
Mm-hmm.
Et ouais, non, c'est crucial.
Et puis sur ça, c'est vrai que moi j'ai une expérience d'une amie qui a dû interrompre la grossesse pour des raisons médicales. Elle a perdu l'enfant tôt, donc dans les 2 semaines. Son histoire d'expulsion de l'embryo était hyper violente. Ça lui a pris des mois et des mois à se remettre de cette expérience.
Donc elle a fait la même chose de pilule à la maison.
Oui, pilule à la maison, voilà. Par contre, elle était hyper triste parce que cet enfant, elle voulait.
Ouais.
Donc elle a dû aussi vivre les deuils de perdre un enfant. Et puis en fait, je pense que là, la communication dans ces cas était aussi très mauvaise. Donc elle n'a pas été accompagnée en disant, voilà, c'est très très violent. Ben, son récit, pour moi, c'était d'une violence incroyable. Et depuis qu'elle m'a raconté ça, chaque fois que j'entends une femme qui a dû interrompre une grossesse, j'ai une énorme empathie.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est vraiment typique de la vie d'une femme. On raconte pas énormément des choses. On raconte pas l'endométriose. On raconte pas les vraies douleurs de l'accouchement. On sait que ça fait mal, mais on pense que ça fait mal juste pousser. ça fait mal pendant des semaines, avant, après. On raconte pas les douleurs des avortements. Franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée quand elle me l'a raconté, parce que c'est la première personne de mon entourage. Et là, quand j'ai entendu ça de ta part aussi, ça m'a vraiment touchée, en fait.
Ouais. Puis c'est assez drôle, parce que moi, j'ai le souvenir d'une ancienne collègue. Quand j'étais étudiante, je bossais dans un bar. Même situation que toi, c'est-à-dire elle avait déjà une fille, puis elle avait avorté. Et en fait, elle est venue me dire, elle a dit « oui, j'ai dû avorter, tout ça ». Elle m'a raconté beaucoup en souriant, puis elle m'a dit « en fait, c'est beaucoup de sang ». C'est tout ce qu'elle m'avait dit. Je suis plus trop en contact avec cette personne, mais je me demande s'il n'y a pas même une partie un peu presque auto-aliénante où, parce qu'on t'a dit « fais ça chez toi », c'est comme si tu n'as pas le droit de dire que tu as eu mal. Ouais. Ou, c'est comme... Parce que vraiment, elle ne m'en a pas parlé à l'époque, alors qu'on était proches. Elle m'a juste dit « c'est beaucoup de sang, c'est chiant, et... mais c'est bon, je suis bien là ».
C'est un peu comme l'accouchement, enfin ce concept qu'on s'inculque entre femmes depuis des milliers d'années, de ne pas trop en dire pour ne pas effrayer. Bah, l'avortement, il y a peut-être un peu ça aussi, il faut que ça reste un droit, il ne faut pas faire peur.
Ouais. Oui.
Et ça doit rester quelque chose qui est accessible et qui...
Puis est-ce qu'il y a aussi cet héritage de culpabilité, c'est-à-dire que de toute façon, en fait, j'avais qu'à pas tomber enceinte et j'ai de la chance de pouvoir avorter, donc je me la boucle. Je me demande, je sais pas.
Mais c'est vrai que quand on parle d'avortement, c'est pas forcément sur la douleur physique de l'avortement qu'on met l'accent, c'est plutôt sur la douleur mentale, donc sur les périodes différentes, des fatigues et des... d'angoisse où on passe au moment de prendre la décision, mais on met peu l'accent sur ça. Donc je suis contente de savoir qu'ils ont en tout cas informé en amont, mais c'est intéressant de savoir que de toute manière, même si pour toi les choix étaient clairs, qu'avoir des douleurs n'aurait pas changé ton avis, c'était pas assez en fait.
Ouais. Puis j'ai une autre expérience d'une amie qui a avorté aussi il y a pas très longtemps et qui elle avait tellement les symptômes de la grossesse qu'elle était nauséeuse pendant des jours et le premier médicament elle l'a vomi et du coup tout s'est mal enclenché et c'est vraiment quelque chose que tu traînes pendant je pense que elle c'était du coup une dizaine de jours voire deux semaines dans l'incertitude les douleurs dans le mal-être qui se poursuivait et dans ce truc qui ne se termine pas quoi donc tout n'est pas une expérience
et c'est
si
clair
simple.
Que c'est pas quelque chose que tu fais et après le lendemain tu vas au travail avec les souris en fait tout le monde fait ça
c'est tellement chargé comme sujet je sais pas comment tu vas au boulot et tu assumes que tu vas mal en fait mais je trouve ça intéressant ce que tu dis qu'en fait on parle pas assez de l'expérience douloureuse et on parle beaucoup de l'expérience spirituelle même en fait et c'est vrai qu'on souvent on décrit enfin dans les films ou dans les romans on décrit l'expérience comme je sais pas un dilemme moral philosophique c'est le pire moment de ma vie alors que toi, c'est pas du tout le choix qui a été difficile, mais c'est plutôt la procédure qui a été difficile. Mais le choix, c'était pas le bouleversement philosophique moral, quoi.
Exact, ouais.
Du coup, t'as eu très mal, il y a beaucoup de saignements aussi, c'est ça ?
Oui.
Du coup, on t'a prévenu de pas être seule, donc ça, c'est clairement un bon conseil, non ?
Oui, il faut être accompagné.
Comment tu vis, toi, le fait qu'on te laisse faire ça à la maison et qu'il y a pas une prise en charge quelconque, je dis pas un lit à l'hôpital, mais je sais pas, moi.
Ouais mais il y a cette inquiétude, parce qu'on a, on perd du sang, on a très mal, moi j'ai perdu vraiment la chute de tension, je me retrouve allongée par terre dans les toilettes. Du coup, on se sent seul, on se sent un petit peu abandonné par le milieu médical, et on aurait besoin d'être rassuré quand même, que ce qu'on est en train de vivre, c'est normal, parce qu'en fait, comme on tape prévenu mais en prenant des pincettes et puis parce qu'en plus toutes les femmes vivent pas la même expérience c'est sûr mais du coup tu sais jamais trop si c'est normal que ça aille jusque là ou pas
Mais est-ce qu'il y a par exemple dans ces cas un numéro que tu pouvais appeler
mais il y avait un peu un cadre c'est s'il se passe ça il faut appeler
il y avait comme on fiche
mais il y a un truc aussi quand t'as raconté ça. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait juste partie de tout ce schéma où la douleur des femmes, elle est un petit peu acceptée trop facilement. Elles se démarrent un peu toutes seules, les femmes. La même chose avec, comme t'as dit avant, l'endométriose, même juste la douleur des règles, en fait. Mm-hmm. Elle est complètement acceptée. Ah oui, t'as mal, ok, ben voilà. Enfin, je veux dire, il y a
alors que c'est un fois par mois, si
oui,
t'as plus.
Pour plus que la moitié de la population. Ça me renvoie un peu à ça, quoi. C'est peut-être juste moi, mais il y a même un filtre un petit peu de punition.
Ouais.
C'est pour ta gueule, un peu, en fait.
Ouais.
Le fait que t'es pas pris en charge comme ça à l'hôpital, ou même que c'est pas un peu plus cadré.
C'est vrai que la thématique de la douleur et la thématique, de ce type de problèmes qui, sont un peu donnés par de vécu quotidien, et du coup, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose que j'ai découvert très tard, parce que j'ai jamais eu mal à mes règles. Mes sœurs aussi, elles souffraient un peu, mais pas autant que ça. Et puis, en fait, j'arrive à 20 ans, quand tu commences à avoir des amitiés, assez poussé et tout, je me rends compte que j'ai des amis qui souffrent vraiment. Et c'est là que je me rends compte, en fait, non, c'est pas juste quelqu'un qui s'est plainte pour rien. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup.
Oui.
On n'accepte pas, on donne pas des diagnostics vrais à des maladies comme l'endométriose ou d'autres. pour ce type de douleur, moi j'ai toujours l'impression, ça m'aurait fait chier de savoir avant l'accouchement que ça fait vraiment mal, mais racontons-nous. Je parle même pas de l'épidurale, c'est après, ça fait mal les bassins, ça fait mal les déchirures, ça fait mal les poings, ça fait mal la poitrine. Il y a beaucoup de douleurs qu'en fait, on nous dit pas, et j'ai un peu l'impression, si on n'en parle pas, c'est logique qu'on doit assumer, quoi. Mmh.
Ouais. Donc toi, t'aurais quand même voulu qu'il y ait un encadrement médical quelconque, peut-être pas un lit à l'hôpital, je sais pas moi ce que t'aurais voulu, mais...
Dans l'idéal, oui, dans l'idéal, vrai, un lit à l'hôpital, pas pour la nuit, juste pour les 5 heures qui sont nécessaires. Après, je peux comprendre le système de santé, etc., qu'il n'y a, pas ces lits-là, mais je ne sais même pas s'ils se sont posé la question.
C'est ça, en fait.
Ouais.
Et du coup, maintenant, ça s'est fait.
C'est fait.
Tu passes quelques jours en arrêt maladie?
Ouais, je pense que c'est 1 ou 2 jours d'arrêt maladie, parce que même si ça a été très douloureux, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, le traumatisme physique passe vite quand même, mais t'as envie de prendre soin de toi, de te remettre quand même gentiment de cet épisode, quoi.
Et là, tu as pu en parler avec des personnes, des connaissances autour de toi? Tu as voulu en parler?
C'est venu beaucoup plus tard. Par la suite, les semaines d'après, les mois d'après, c'est beaucoup mon conjoint qui en a parlé. Pour lui, c'était très important et il s'était vraiment complètement approprié cette décision. C'était notre décision, c'était sa décision, c'était... Et il trouvait ça très intéressant d'en parler dans notre entourage pour démocratiser cet acte, surtout dans notre situation, comme quoi effectivement, on peut être dans une situation stable et pouvoir accueillir une grossesse, mais la refuser, et que c'est OK. Et donc lui en a beaucoup parlé, puis moi j'étais plutôt dans l'écoute, je pense que où lui, ça lui a permis d'accepter, ou je sais pas, on a aussi des caractères très différents.
Du coup, des fois, il en parlait quand t'étais là?
Oui.
Et les gens réagissaient comment? T'as des réactions qui te restent en tête ou...
J'ai pas de réaction qui me reste en tête, donc je pense que c'était toujours très bienveillant et dans l'écoute, en fait. Après, avec la copine qui a avorté récemment, elle me disait, mais c'est fou, je me rends compte qu'à ce moment-là, je t'ai posé aucune question et qu'on devrait, en fait, en parler justement de cette douleur, de ce que ça veut dire. Mais c'est aussi moi qui n'avais pas le besoin d'en parler, donc peut-être que j'attirais pas les questions. Voilà.
Est-ce qu'elle t'en a dit plus, ta copine, genre pourquoi elle t'a pas posé de questions?
Non, mais en fait, ce qu'elle analysait, c'était de dire, mais c'est fou parce que c'est quand même quelque chose qui est un épisode de vie très important. J'ai su que tu le vivais et j'ai pas cherché à mieux saisir ce que t'avais vécu.
Parce que t'as dit, peut-être toi t'invitais pas des questions, mais je me demande si c'est pas aussi le sujet qui invite pas de questions,
aussi,
parce qu'il est justement un peu emballé de plein de choses, et du coup, qu'est-ce que tu demandes?
Ouais.
Alors maintenant qu'elle a vécu son propre avortement, je pense que du coup, là ça s'est ouvert pour elle comme sujet.
Oui, mais c'est qu'en fait, ça peut être juste des questions très techniques, ça se passe comment?
C'est vrai, tu cherches où la pilule? Moi j'avais pas pensé par exemple à ça, que c'est une ordonnance et que tu vas à la pharmacie, j'avais pas du tout pensé à ça. Combien de temps ça a duré cette période où on t'en parlait pas beaucoup? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu viens en podcast par exemple, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ton récit? Aujourd'hui.
Je pense que l'écoute du podcast et le besoin que j'ai eu de t'en parler a fait que je me suis dit que c'était intéressant. Et puis l'expérience de cette copine aussi. Ça arrivait un peu en même temps. C'est qu'elle me dise c'est fou qu'on n'en parle pas et que je puisse rebondir sur l'épisode et qu'on en discute. Je me suis dit il faut en parler plus pour plein de raisons. Voilà, parce que ce dont on ne parle pas, on ne le sait pas.
Et comment tu imagines la chose par rapport à Ia, ta fille?
Ouais, effectivement, quand justement on en a parlé autour de nous, on en a aussi parlé aux garçons de mon conjoint qui était plutôt adolescent déjà, parce que c'était quelque chose qu'on vivait, et ils étaient déjà grands pour comprendre, etc. Et en plus, ils allaient rentrer ou ils rentraient dans la vie sexuelle et ça nous paraissait super important de leur rappeler que la méthode de retrait ne fonctionne pas.
Faites pas comme nous, on a testé.
Donc c'était assez évident d'en parler avec eux. Et Ia était petite, elle avait 7 ans.
C'est quand même mon âge où elle est petite, mais elle peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe.
Complètement.
Ouais.
Je sais plus très bien ce qu'on a dit par rapport au fait que j'étais à la maison, etc., que je vivais un moment compliqué physiquement, etc., que j'avais une intervention, mais on n'a pas mis les mots avortement. Depuis, je lui ai expliqué ce que c'était l'avortement. En préparant le podcast, on en a parlé avec mon conjoint, et puis je lui ai posé la question, est-ce que ce sera pas l'occasion justement de lui en parler plus précisément? Et là, il m'a dit quelque chose que je trouve complètement pertinent, c'est de, par rapport au développement des enfants, est-ce qu'ils veulent écouter ce qu'ils peuvent écouter. En fait, ce qu'il m'a dit, qu'il avait entendu une fois, c'est que les enfants, ils peuvent tout écouter à partir du moment où eux posent la question. Et que tant qu'ils posent pas la question, c'est que ça les intéresse pas ou c'est que c'est pas le moment.
Intéressant.
Ouais.
C'est presque vrai pour les adultes aussi.
Aussi. Donc ça viendra un jour, j'en suis sûre, mais pas encore maintenant, sachant que encore maintenant, elle me demande d'avoir un petit frère, une petite sœur.
Nul. Très dur.
Très régulièrement, je dois lui expliquer toutes mes raisons qui sont assez floues de pourquoi je ne veux pas. Mais...
ouais, je trouve ça une cool réflexion. Ouais. Si t'as pas posé la question. Ouais.
Et je trouve que c'est aussi très respectueux.
Oui. Puis il y a aussi, t'avais dit un truc. T'avais dit que c'était comme naturel pour toi, fluide pour toi de pas en parler, parce qu'il y a un truc dans ta famille de garder les secrets. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler?
Ouais, parce qu'en plus j'ai une conversation tellement intéressante cet après-midi.
Mais non, vas-y.
Parce que du coup, comme je venais enregistrer et que ma mère est à la maison en ce moment et que je n'en ai jamais parlé à ma mère, je voulais lui en parler. Mais quel effort pour moi d'amener le sujet sur la table. Mais j'ai réussi à lui en parler, lui dire, ah bah voilà, je vais enregistrer ce soir, on va parler d'avortement. Et on était en plus en train de parler de tous les non-dits de la famille, de tous les secrets, etc.
Ah ouais. Okay.
Et du coup, j'ai dit, bah voilà, dans les non-dits, bah moi j'ai une histoire, et d'ailleurs c'est ce soir que je vais en parler, donc je voulais te prévenir. Et donc je lui raconte, et je la vois bouleversée. Et puis du coup, bon, on en discute un petit peu, je lui explique. Puis je dis, mais quand je te vois maintenant... Je me demande si j'ai bien fait de t'en parler, parce que... Enfin voilà, ouais. Et elle me fait... Ouais, c'est une bonne question. Je crois que j'aurais préféré ne pas savoir.
Ah, oh, wow.
Pardon. Ah, c'est dur quand même.
Ouais. Ouais. Et là, ça m'a, moi, complètement chamboulée.
Ouais.
Et j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que t'aurais préféré ne pas savoir? Pourquoi est-ce que tu le prends, tu transformes quelque chose que j'ai vécu, que je te raconte, dans quelque chose qui te concerne toi?
Oui.
Et il y a deux choses très intéressantes. C'est que, bon, à force de discuter, j'ai compris que pour elle, un schéma, son schéma, et le schéma de beaucoup de familles, c'est deux enfants.
Ouais, bien sûr. Okay.
Mais pourquoi s'arrêter à un enfant? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Et elle m'a raconté, hein, les gens me demandent, et Mona, elle aura un deuxième enfant? Et qu'elle est très gênée de répondre, et qu'elle évite le sujet. Et c'est complètement fou, ce truc de normaliser la famille. Ça m'a vraiment étonnée. Et à force de discuter comme ça, la deuxième chose intéressante, c'est qu'elle me dit « Tout à l'heure, je t'ai dit que j'aurais préféré ne pas savoir. » Et finalement, je suis contente de le savoir parce que ça me permet d'être sûre que tu ne regrettes pas ce schéma familial. Tu l'as choisi complètement.
Ouais. Ouais.
C'est beau quand même.
Donc finalement, ça a terminé joliment. Mais ouais, ce truc du non-dit, c'est complètement fou.
Donc ça veut dire que finalement, elle est contente de savoir que tu es heureuse dans le schéma dans lequel tu vis.
Oui.
Et ça, c'est cool.
Mais je pense que du coup, ça fait 8 ans qu'elle n'est pas sûre de mon schéma, parce qu'il fallait peut-être attendre les 2 ans d'IA. Ouais. Mais ça fait 8 ans que...
C'est incroyable.
Est-ce qu'elle est sûre d'elle? Puis elle m'a dit aussi, si tu m'en avais parlé... J'aurais pas eu la réaction que tu souhaitais, donc c'est bien que tu m'en aies pas parlé sur le moment.
Ah ben
c'est
voilà.
Cool, ça, c'est sage de sa part, de reconnaître ça, quoi.
Ouais.
Mona, si t'imagines qu'il y a des gens dans l'audience qui envisagent d'avorter, ce serait quoi tes conseils ou tes alarmes?
Bon, je pense que le premier conseil, ce serait évidemment de s'écouter soi et de pas essayer d'être rationnel, peut-être, ou je sais pas. En tout cas, ça, dans ma position, de pas avoir cherché à être rationnel et puis d'avoir juste écouté ce que me disait mon cœur. Là, pour le coup, c'était vraiment ça. Ça, je peux que le conseiller parce que j'imagine ça va dans les deux sens, en réalité. Quand on a une décision à prendre, si on veut garder la grossesse, le cœur parlera aussi.
Ouais.
Et puis, bah, l'idéal, c'est évidemment si on est accompagné pour ce choix, d'être bien accompagné, mais ça, c'est rarement un schéma évident. Dans les jours de réflexion, réussir à trouver 2-3 personnes clés importantes, évidemment, si le conjoint en fait partie, c'est super. Et puis, le jour de l'avortement, d'être accompagnée du début à la fin.
Et au planning familial, t'as eu aussi une séance de soutien psychologique ou d'aide à la décision?
Oui.
Et l'accès au planning familial, ça se passe comment? Tout le monde a accès?
Oui. Je pense que c'est gratuit. Je pense qu'au niveau du planning familial, j'ai rien payé. D'ailleurs, j'ai vérifié, l'avortement est remboursé.
Oui, c'est juste, les Suisses ont voté il y a quelques années, ouais. Il y a une dizaine d'années.
Il y a quelques années, voilà. Ouais. Bon, il faut atteindre la franchise. Donc, quand on a une franchise à 2500, on n'est pas remboursé. Mais voilà, moi, je ne pensais pas, d'ailleurs, puisque la pilule n'est pas remboursée. Je n'imaginais pas que l'avortement pourrait l'être. Et concernant le planning aussi, quand même, ce que j'avais trouvé très important et qu'ils ont fait et que j'ai trouvé après coup très important, c'était que comme on a été à deux au rendez-vous, à un moment donné, ils ont demandé à mon conjoint de sortir de la salle pour s'entretenir uniquement avec moi.
Ah ouais,
et pour s'assurer que c'était mon choix et pas un choix imposé. Ouais, c'est vraiment le top, le planning familial.
Ouais, ça c'est cool. Mm. Trop bien.
Trop bien, ouais.
Toi, Rzaba, t'as un mot de la fin ?
Non, moi, je pense toujours à toutes ces femmes qui sont passées par là, à toutes nos copines qu'on sait qui sont passées par là ou qu'on ne sait pas qu'elles sont passées par là, ouais, parce qu'elles n'ont pas osé raconter. Donc voilà, beaucoup d'empathie pour toutes les femmes.
Et grosse pensée, perso aussi, grosse pensée pour les femmes dans des pays où c'est illégal. Il y a plusieurs pays dans le monde occidental aussi.
Où c'est légal, comme en Italie, mais c'est impossible de trouver un médecin qui fait la prescription de nos médicaments.
Ah wow. Ouais, donc c'est légal, mais les mœurs et coutumes ne le permettent pas trop.
C'est la grande question. Au sud d'Italie, moi j'étais à fond dans ce domaine quand j'étais encore en Italie. C'est qu'en fait, c'est légal, mais il y a cette notion de conscience de médecin,
ah ouais,
qui permet, en fait, si t'es catholique ou si ta conscience ne te donne pas, t'es pas obligé.
Objection de conscience, genre.
Objection de conscience, voilà. Au nord, c'est moins problématique parce que voilà, ça peut t'arriver, mais c'est jamais. Voilà, tu peux peut-être passer par deux médecins, mais tu le trouves. Mais il y a des régions, dont la Basilica, où il y avait zéro médecin qui prescrit ni la pilule du lendemain.
Donc ça, c'est un truc dans la loi, en fait. Ah non, mais ça, c'est horrible.
Donc en fait, l'Italie, c'est vraiment... Si vous allez chercher, il y a plein de recherches et d'articles, des enquêtes autour de cette problématique, parce que voilà, il y a une grande partie du sud d'Italie où l'avortement, même la Sardaigne, c'est sur une île. Donc tu peux pas non plus passer d'une région à l'autre. Et tu te retrouves avec un taux de médecins conservateurs qui est genre à 80%.
Mais c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aux États-Unis, il y a ces fameuses cliniques d'avortement. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, les médecins pratiquent...
pas.
Enfin, ne pratiquent pas ça, tout simplement. Ouais.
C'était comment, Mona, pour toi, alors, de venir au podcast ?
C'était très intéressant, je suis très contente. Merci beaucoup.
Ouais. Ouais, cool, merci à toi.
Merci à toi d'avoir écrit au podcast. Moi, quand Lirza m'a parlé de cet épisode, je suis là, waouh, ça va être intense mais beau. Donc, c'était comme ça, intense et beau. Pour toi aussi, Lirza ?
Ouais, vraiment, oui, cool. Oui. Et je trouve que c'est le genre d'épisode... En fait, c'est le genre d'histoire que je trouve c'est important de raconter. Parce qu'elle est justement dans ces zones grises, dans ces histoires qu'on ne raconte pas. T'as pas d'article sur cette histoire-là. T'as des articles sur des histoires traumatiques ou des histoires... Enfin, tout plein de choses, mais pas ça. Et on a déjà parlé, je crois, dans le podcast, mais ce que j'ai trop aimé, quand il y a eu le débat sur l'avortement aux États-Unis, qui s'est très mal terminé, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai eu l'impression que le débat s'est quand même déplacé. Quand on en parlait il y a 15 ans, on disait vraiment, mais et les cas de viol, et les cas de ci, et les cas de ça, pour légitimer, en fait, la raison d'être de la procédure d'avortement. Alors que cette fois-ci, il y avait beaucoup plus du... je veux avorter parce que j'en ai envie. Et ta gueule. Et ça, je suis contente que le discours a changé. Après, la fin était catastrophique, légalement.
Ouais.
Mais je trouve ça bien qu'on en soit là, en fait. Juste moins parler, justement, du cas, du viol. Mais en fait, non. C'est juste que c'est mon choix.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'en entendre encore beaucoup parler de ces cas extrêmes et qui ne sont pas, du coup, des questions de choix, en fait. C'est juste...
Ouais, peut-être que je suis trop dans des comptes féministes sur Instagram. Et puis, ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, du coup, c'est peut-être... Ouais.
Ça les filtre.
Parce que je crois que c'est le premier ministre canadien. Trudeau. Ouais,
ouais, j'ai
vu une petite vidéo où, justement, il défend l'avortement face à quelqu'un qui l'interpelle dans une manifestation. Puis, son argument, c'est le viol. C'est dommage, quand même, que toi, politicien, tu...
Ouais, que tu dérapes tout de suite là-dedans.
Ouais.
Merci, Mona.
Merci à vous.
C'est cool. C'était les Passants en bicyclette, un podcast féministe indépendant lausannois.
Tu veux faire de la pub aussi pour notre compte
Patreon ? Oui, alors on a un compte Patreon, vous pouvez vous inscrire, vous avez du contenu supplémentaire sur le compte. C'est dès 5 francs, vous avez accès au contenu supplémentaire et il y a actuellement un épisode entier ou...
Oui, il y a un épisode entier exclusif et un épisode prolongé sur la parentalité. Mais il y a quand même genre 40 minutes de plus, donc c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez nous aider à continuer le projet. Cool.
Alors, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Merci.